C'était le 28 août dernier, en 2016, et nous avions parlé, vous vous rappelez le sujet? C'était la parabole des talents. Alors, est-ce que vous vous en souvenez? On ne va pas tout redire, mais donc c'est un maître qui part en voyage, qui confie ses biens à trois de ses serviteurs, et quand il leur confie les biens, il leur confie beaucoup de biens, parce qu'il y a énormément d'argent qui est en jeu. Je crois de mémoire que celui qui en a le plus a en équivalence 1 500 000 euros de capital à gérer. Le deuxième, lui, a deux talents, et le troisième serviteur a un talent, qui est quand même 300 000 euros, ce qui n'est pas mal. Et nous avions dégagé de cette parabole que ces talents symbolisent les capacités que Dieu nous donne pour mettre en œuvre et mettre, on va dire, en pratique les dons qu'il nous a donnés pour sa gloire et pour son service. Et nous avons aussi vu que ce serviteur qui était infidèle et qui n'a pas fait fructifier son talent, qui est allé le mettre dans la terre, a été rejeté, et nous avons compris là qu'il s'agissait de personnes qui n'avaient pas compris le salut de Dieu, et donc qui a été rejeté et exclu. Alors pourquoi aujourd'hui je vous parlerai de la parabole des mines? Eh bien tout simplement parce que, comme je vous ai dit en août dernier, je pensais que la parabole des mines et la parabole des talents étaient les mêmes, mais en fait il n'en est rien. Et donc j'avais décidé de prévoir deux cultes différents, donc un sur la parabole des talents et un sur la parabole des mines, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors la parabole des mines, par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est... on n'en parle pas souvent. Alors, j'ai identifié deux raisons qui font qu'on n'en parle pas souvent. La première, c'est parce que je pense que nous sommes nombreux à penser qu'elle est semblable, elle est tellement semblable à celle des talents que finalement, bon, comme celle des talents est très explicite, ben on choisit de parler sur la parabole des talents en priorité. La deuxième raison, c'est que cette parabole des mines renferme quelques versets, et surtout le dernier, le verset 27 de Luc 19, qui sont assez difficiles à lire à l'occasion d'un culte. Vous allez voir. Alors, comme la dernière fois, nous allons lire la parabole, la resituer dans son contexte historique, et puis en tirer quelques enseignements. Alors, je vous invite à une lecture qui se trouve en Luc. C'est Jésus qui parle, hein. Luc 19, versets 11 à 27. Luc 19, 11 à 27. Luc 19. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. » Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez d'ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. C'est très dur comme le dernier verset. Hein? Alors la première lecture, ces deux paraboles sont très semblables. Toutefois, nous allons constater ensemble que ceux-ci n'en sont pas moins différents et suggèrent des compréhensions distinctes. Alors je vais resituer cette parabole des mines dans son contexte. Mais avant, je voudrais la résumer en vraiment très très rapidement en quelques mots. Alors cette parabole des mines, si on la résumait, on pourrait dire, voilà, il y a un homme qui est de lignée royale, apparemment, parce qu'il est noble, et il s'absente pour se voir revêtir de l'autorité royale. Alors avant de partir, il confie équitablement une partie de ses biens à ses serviteurs avec la consigne suivante qui est de faire fructifier l'argent. Les citoyens locaux, qui détestent cet homme, décident de tout entreprendre pour que celui-ci ne devienne pas leur maître. Tentative qui finit par échouer. À son retour, le roi fait les comptes avec ses serviteurs et récompense ceux qui ont été efficaces, et il les récompense à la mesure de leur performance. Seul un d'entre eux révèle sa négligence après une tentative de défense extrêmement maladroite. Le roi, en colère après lui, décide de lui retirer la somme d'argent confiée et la remet à celui qui en avait le plus. Enfin, les comptes sont définitivement réglés, également avec ses opposants qui se voient exécutés sur le champ. Alors si Jésus a utilisé cette structure, il ne l'a pas fait sans raison. À l'époque, Hérode le Grand, qui avait la responsabilité de la province de Judée, avait pressenti son fils Archélaus pour lui succéder. Seulement, ce fils Archélaus, il n'était pas du tout, mais alors pas du tout, apprécié des Juifs de l'époque. Il ne voulait pas que Archélaus devienne responsable de la Judée. Et les Juifs ont mis de l'énergie jusqu'à envoyer une délégation à Rome, vous voyez un peu la distance, hein, à Rome, pour aller se plaindre et dire « Non, 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 nous on ne veut pas que cette personne devienne notre chef. » Alors Archélaus, lui, a été obligé à son tour de se rendre à Rome pour défendre son autorité royale et se voir investi de l'autorité royale. Mais imaginez un petit peu à son retour, les premières décisions qu'Archélaus a prises ont été extrêmement sévères puisqu'il a fait exécuter toutes les personnes qui s'étaient opposées à lui. Enfin, on ne faisait pas dans la dentelle. Si Jésus a pris cette structure, qui vraiment est exactement ce que la parabole des mines révèle, ce n'est pas rien, c'est que ça parlait à ces personnes, à ceux qui l'écoutaient à l'époque. Ceci dit, il est incontestable que cette parabole des mines parle de Jésus. Parce que Jésus, effectivement, il est de lignée royale, nous le savons. Et nous savons aussi, nous le savons même mieux que les Juifs à l'époque, puisque les Juifs avaient Jésus devant lui, les disciples de Jésus l'avaient devant lui. Nous savons, en tant que chrétiens du 21e siècle, que Jésus est parti pour un temps. Et nous savons qu'il reviendra un jour revêtu de son investiture royale. Alors lui aussi, il était détesté d'une certaine partie, d'une certaine catégorie de personnes, beaucoup d'ailleurs, hein, puisque les Juifs de l'époque ont été jusqu'à le mettre à mort sur une croix. La parole de Dieu, ce matin on a beaucoup parlé de parole. L'évangéliste nous dit en Jean 1, verset 10 et 11, la lumière, qui est rapportée à Jésus, la lumière était dans le monde, le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Il a été rejeté par une bonne partie de personnes. Alors nous savons que sa mission terrestre accomplie, Jésus reviendra. Il est parti pour un temps, mais il reviendra revêtu de l'autorité, celle de Dieu lui-même. Alors avant de poursuivre, j'aimerais que nous passions quelques instants à noter les similitudes et puis les différences qu'il règne entre les différences, enfin entre les paraboles des talents et la parabole des mines. Alors vous avez à l'écran, alors vous arrivez à lire, un tableau avec à gauche une colonne parabole des talents et à droite parabole des mines. Alors, première ligne de ce tableau, le lieu où a été prononcé le discours, la parabole. Alors la parabole des talents, on l'a dit en août dernier, elle a été prononcée sur le mont des Oliviers, par Jésus. La parabole des mines, elle, alors elle a été prononcée pendant un déplacement qui était entre Jéricho et Jérusalem. Ensuite, donc deuxième ligne de ce tableau, alors c'est un peu comme pour un film, quelle est la distribution de ce film? La distribution d'un film, c'est le casting de ce film, c'est qui sont les personnages. Les personnages de la parabole des talents, il y a deux catégories, il y a le maître et ses serviteurs. Dans la parabole des mines, il y a une catégorie de personnes supplémentaires. Il y a le maître, ses serviteurs, mais il y a aussi des concitoyens. Voilà, ceux qui payent un lot tribut à la fin. Troisième ligne du tableau, les circonstances de l'histoire qui est rapportée dans la parabole. Alors, on sait que le maître noble va partir en voyage pour se voir revêtir de l'autorité royale. Mais alors, dans la parabole des talents, le maître, il nous est dit qu'il part en voyage. On ne sait pas plus sur ce qu'il va faire ou ce qui va lui arriver. La parabole des mines est un petit peu plus précise. Le maître s'absente pour être couronné roi. C'est ce que vous voyez dans la partie droite. Quatrième aspect à noter entre ces deux paraboles, c'est quelle est la nature des biens qui sont confiés. Alors Pierre, je vais répondre à ta question. Alors on a dit que les talents représentaient une très forte somme d'argent. C'était donc 300 000 euros par talent. Alors il y en a un qui a eu 5 fois 3, 15, donc 1,5 million. Alors que les mines correspondaient à peu près 4 mois de salaire d'un militaire de l'époque. Alors j'ai estimé ça à peu près à... Donc tu peux le mettre là, tu l'as mis déjà?
Oui.
Donc c'est la quatrième, c'est un an. Non, c'est bien. Ça correspond à peu près à 5 ou 6 000 euros de capital. Bon, on aimerait bien les avoir, mais entre 300 000 euros et 1,5 million, 5 à 6 000 euros, c'est pas grand-chose, d'accord? Ensuite, nous sommes à la cinquième ligne. La quantité qui est remise aussi vaut le coup d'être relevée, parce que dans la parabole des talents, la quantité diffère. Un serviteur s'en voit remettre 5, le deuxième s'en voit remettre 2, et le troisième s'en voit remettre un seul. Alors que dans la parabole des mines, égalité de traitement, tout le monde reçoit une mine. Tout le monde reçoit 5 à 6 000 euros en équivalence à gérer. Ligne 6 du tableau, les récompenses. Alors là aussi c'est étonnant parce que les récompenses dans la parabole des talents sont les mêmes pour les serviteurs qui ont été fidèles. Et j'ai envie de dire, et on l'a dit au mois d'août, la phrase prononcée par le maître est la même à la virgule près. Hein, entre dans la joie de ton maître, c'est bien bon et fidèle de serviteur. Alors que dans la parabole des mines, il y a une petite variation, une appréciation qui va décrescendo, puisque celui qui a gagné 10 mines, enfin qui rapporte 10 mines à son maître, se voit plus félicité que celui qui en a 5, la phrase est plus courte, et celui qui, par contre, n'a pas jugé bon de faire fructifier la mine, lui, j'ai envie de dire, se voit moins jugé que celui qui a caché le talent dans la parabole des talents. Donc c'est assez différent et on va y revenir. Septième item, comment on fait fructifier, donc j'ai appelé ça condition de productivité, comment on fait fructifier son talent ou sa mine. Alors on a dit en doute que pour faire fructifier son talent, cela nécessitait une volonté, un effort personnel, un engagement, qui se traduit par ces mots que les serviteurs disent à son maître, « Seigneur, j'ai gagné 5 talents supplémentaires, en plus des 5 que tu m'avais donnés. » Alors que dans la parabole des mines, ce qui est très intéressant, c'est que les deux serviteurs qui ont fait fructifier la mine, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne disent pas « j'ai gagné », ils disent « ta mine a rapporté ». Donc, on a le sentiment que dans la parabole des mines, la mine fructifie toute seule pour peu qu'elle évolue, qu'elle soit placée dans un cadre de fidélité, et d'engagement, on va dire de soumission. Et enfin, le dernier item, c'est quelle est la sanction qui est infligée à l'égard du serviteur qui ne s'est pas montré fidèle. Alors, dans la parabole des talents, elle est extrêmement sévère, puisqu'il est dit qu'il est jeté dans les ténèbres du dehors, quand même pas rien. Et dans la parabole des mines, c'est un moindre mal, bon, il se voit quand même, le maître lui dit, méchant serviteur, ce qui n'est vraiment pas rien non plus. Je n'aimerais pas que le Seigneur un jour me dise, méchant serviteur. Lui se voit dépouillé de sa mine, et sa mine, elle est donnée à un autre. Donc voilà en tout cas ce que nous pouvons noter des différences qu'il y a entre les paraboles des talents et les paraboles des mines. Donc ces différences sont assez claires pour que nous comprenions que ces paraboles ne veulent pas dire la même chose. Il y a quand même de grosses différences. Alors la parabole des talents, on l'a déjà dit, elle recèle aussi une autre information que la parabole des mines recèle une autre information que la parabole des talents ne parle pas, elle est relative à ses concitoyens, donc à ces gens qui s'opposaient durement et farouchement à ce maître, donc à Jésus, et la parabole nous annonce que ces personnes seront mises de côté par le maître lui-même. Alors qu'est-ce que nous pouvons tirer, c'est ça le plus intéressant, qu'est-ce que nous pouvons tirer, chers amis, de la parabole des mines aujourd'hui? Alors, à la différence de la parabole des talents, où chaque serviteur se voit remettre un talent, dont on a dit que c'était nos compétences, et qui sont différentes les uns des autres, hein. Certains, Pépin va avoir le don de la musique, d'autres le don d'hospitalité, vous voyez que ce sont des choses totalement différentes, eh bien, à l'inverse, dans la parabole des mines, chacun se voit attribuer la même chose. Alors donc, j'ai réfléchi et je me suis demandé qu'est-ce que le Seigneur a donné à chacun de ses enfants, à chacun de ses serviteurs. Qu'avons-nous tous reçu en commun? Alors on en a parlé ce matin, c'était le thème, la parole de Dieu. On peut également penser, vous vous souvenez pour ceux qui étaient au mariage d'Aline et Mathieu, Richardy, le 30 juillet dernier, on peut penser à ces services socles que j'avais dégagés à l'occasion de leur mariage. Et je les rappelle, ces services socles que nous avons tous, en tant que chrétiens, à accomplir, c'est l'annonce de l'évangile autour de nous, on reste dans le domaine de la parole, la prière, la louange, et puis le jeûne, qui aussi peut être considéré comme une forme de prière. Alors donc, je me suis dit, faire fructifier sa mine reviendrait donc à faire travailler. C'est pas nous qui faisons l'effort, puisque, souvenez-vous, les serviteurs disent « ta mine a produit 10 mines ». Donc faire fructifier sa mine reviendrait à faire travailler la parole de Dieu en nous. Ça reviendrait à prier, à annoncer le salut de Jésus au travers de l'évangile aux autres. Et c'est conforme verset 19 du chapitre 28 de Matthieu, hein, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». On est tout à fait dans cette conformité. Alors, chers amis, que faisons-nous de notre mine? On en a reçu et on a reçu la même. Alors là, il n'y a pas de jaloux, on ne peut pas se regarder les uns les autres, « Lui, il a de meilleures capacités que moi ». Non, 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 non. Là, on est tous à égalité, chers amis. Qu'est-ce que nous faisons de notre mine. Est-ce que nous la cachons dans un mouchoir, dans notre mouchoir, comme ça a été le cas de ce serviteur qui a eu peur et qui a caché sa mine? Est-ce qu'on a étouffé la parole de Dieu dans notre vie? Et pourtant, la parabole nous suggère que, par cette phrase « ta mine a produit », que lorsqu'elle nous vivons dans un cadre fidèle, celle-ci, la mine, eh bien, elle prospère toute seule. Oui, quand nous avons décidé d'être fidèles à Jésus, la parole de Dieu a un effet certain sur nous et sur notre vie. Notre vie devient marquée d'effets. Elle devient d'elle-même une vie de parole. Elle devient d'elle-même une vie de prière et de louange. Elle devient d'elle-même une vie d'exemple pour les autres, pour peu que nous soyons fidèles. Que nous soyons des serviteurs fidèles. Alors, à l'instar des deux premiers serviteurs qui ont vu leur mine capitalisée, notre vie doit révéler l'impact, la grandeur de l'impact. Notre vie doit révéler la grandeur de l'impact que la parole de Dieu a eu sur nous. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois que c'est là le point central de la parabole des mines. Notre vie révèle l'impact, la grandeur de l'impact que la parole de Dieu a eu en nous. Quel est l'impact, quelle est la marque que la parole de Dieu a laissée sur ma vie? Est-ce que c'est une toute petite lentille qui... Oui, il faut une loupe pour voir les effets de la parole de Dieu dans ma vie. Ou est-ce que la parole de Dieu, on voit que ça en moi, en vous? Donc la question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est: quels effets la parole de Dieu a sur moi? Ou alors, en posant-nous la question autrement, est-ce que je pourrais espérer que la parole de Dieu produise naturellement des fruits en moi si celle-ci n'habite pas en moi? Alors, on peut répondre déjà non. Si la parole de Dieu n'est pas en moi, elle ne peut pas avoir d'impact. Ça me paraît normal. Une voiture qui sans essence ne peut pas produire de grands effets sur une piste. Eh bien, si la parole de Dieu n'est pas au centre de ma vie, elle n'occupe pas mes pensées, ne compte pas dans les décisions importantes de ma vie, comment pourrais-je voir ma mine fructifier et qu'est-ce que j'aurais à rendre comme compte le jour où Jésus, qui est parti pour un temps, reviendra et il me demandera: Jean-Pascal, ta mine, elle a donné quoi? Je peux voir. Et si là, je déploie mon mouchoir honteusement, et que je lui rends la mine, ben voilà, c'est la même. Elle n'a pas bougé. Quelle tristesse. Alors cette parabole nous enseigne quelque chose aussi qui est probablement difficile à comprendre, très facile à comprendre humainement, difficile à imaginer spirituellement, c'est que au moment des comptes, Jésus récompensera ses enfants, non pas à la mesure de ce qu'on aura fait, toutes les actions de ce qu'on aura pu produire par nos propres volontés, mais bien à la mesure de ce que la parole de Dieu aura eu comme impact. Et là, j'insiste, parce qu'on aurait tendance humainement à dire à gagner des choses par un mérite. Et je ne pense pas que c'est ce que Jésus dégage là comme objectif. Non, je pense qu'il récompense à la mesure de ce que la parole de Dieu aura eu comme impact dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle aura changé dans ma vie? Et ces récompenses ne sont pas moindres, ce ne sera pas une image ou un bonbon, mais il nous promet des villes. Alors bon, qu'est-ce que ça représente? Donc j'ai repensé à ce verset 26 d'Apocalypse 2 où il est dit: « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Vous vous rendez compte comme promesse, comme récompense? Mais c'est énorme! C'est énorme, il nous promet de, non pas d'être ses esclaves, ce qui, au sens du tout-puissant, serait déjà un privilège, mais c'est de régner avec lui. C'est quand même incroyable. Régner avec le Seigneur Jésus qui sera investi de son autorité royale. Et à celles et ceux qui sont efficaces, Jésus confie d'autres mines. Alors c'est ce qui est représenté par cette mine qui est reprise du serviteur infidèle et qui est confié à celui qui en a 10. C'est que, à partir du moment où ma vie et largement impacté par la parole de Dieu, ben, le Seigneur continue de m'alimenter et de me donner de sa parole pour que celle-ci puisse encore plus rayonner autour de nous. Alors, au sujet de la sanction de l'indifférence, celle du serviteur infidèle. Eh bien, j'ai envie de dire, puisque la mine produit, puisque la mine pousse et croît et fructifie toute seule, comment il a fait pour que sa mine ne produise pas? C'est quand même clair, on a le sentiment que cette mine évolue toute seule, et pourtant le serviteur infidèle, il arrive avec un bilan qui est nul, zéro évolution. Comment il a fait? Eh bien, pour que sa mine ne prospère pas, celui-ci a besoin de l'énergie pour que celle-ci ne prospère pas. C'est-à-dire qu'il a dû travailler à ce que sa mine ne travaille pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le colloque. En fait, il a d'une certaine manière, il a empêché sa mine de capitaliser. Alors, comment on pourrait représenter cette personne aujourd'hui? Alors là, les exégètes ne sont pas d'accord. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui a tort et raison. Donc je vais vous dégager les deux hypothèses. Qui est cette personne aujourd'hui qui met de l'énergie pour que sa mine ne prospère pas? Alors, ce pourrait être une personne qui se dit appartenir à Jésus, donc d'apparence chrétienne, donc d'étiquette hein, chrétienne, mais qui, dans les faits, en réalité, n'a pas fait le pas de la foi. On revient là au cas du serviteur infidèle de la parabole des talents qui, lui, se voit condamné aux ténèbres du dehors. Donc là, aurait-on le même serviteur infidèle dans les deux paraboles? C'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, nous avons là affaire à un chrétien qu'on va qualifier de mou, d'inactif, de végétant, qui certes ne perd pas son salut, parce qu'il est chrétien, il fait partie de la famille de Dieu, mais qui se voit dépossédé de toute récompense. Alors, pour illustrer ça, j'ai repensé à un fait qui s'est passé dans ma vie une fois. Bon, je ne prends pas souvent le métro, mais un jour, je prends le RER, je vais à Paris pour une formation, et en face de moi, dans le carré où j'étais assis, en face de moi, une personne était assise et lisait un livre d'une taille et d'une apparence et d'une forme qui s'apparentait à être la Bible. Et pendant tout le trajet, qui dure quand même 35 minutes, je me suis demandé qu'est-ce que je peux bien dire à cette personne pour l'encourager à continuer dans sa lecture. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en recherche, qui découvre. Et puis j'ai eu honte de me retrouver sur le quai de ma destination sans avoir adressé un mot à cette personne. Et là, voilà une occasion ratée d'avoir pu faire fructifier ces valeurs socles que j'identifiais tout à l'heure, à savoir l'annonce de la parole, le Dieu. Ben, en gros, j'ai manqué l'occasion. J'ai perdu l'occasion de parler. Donc je m'en suis voulu toute la journée. Ça a gâché ma journée. Et le soir, quand j'ai repris le métro, la personne qui était en face de moi lisait la Bible. Donc le Seigneur a permis que j'ai droit à une chance. Donc ma mine, il ne me l'avait pas encore enlevée, il ne l'avait pas confiée à un autre. Mais là, par contre, il fallait absolument que je le fasse. Donc bon, j'ai pu adresser deux mots à la personne qui était en face de moi et l'encourager à continuer sa lecture. Eh bien, les occasions, chers amis, que nous aurons manqué de servir le Maître, nous serons reprises et confiées à d'autres qui savent. Alors il y a même un texte, hein, vous vous rappelez ce texte dans la parole qui dit que si on se tait, c'est les pierres qui crieront à notre place. Hein? Ce serait dommage de ne pas saisir une occasion. Vous rappelez cette notion en août dernier à propos de la parabole des talents, cette notion de banquier. Vous vous rappelez, hein, tu aurais dû mettre ton talent à la banque et ainsi je l'aurais retiré avec un intérêt. Et on avait identifié cette notion de banquier à ceux qui savent faire fructifier. C'est pas une honte de ne pas savoir. On a le droit de ne pas savoir. Et quand on ne sait pas, c'est pas non plus une honte de demander. Et bien voilà, nous sommes aussi, en tant que chrétiens, nous voyons confier ces mines, ces simples mines, qui valent 5 ou 6 000 euros. La parole de Dieu, la prière, la louange, l'annonce de l'évangile, Et on peut avoir peur, on peut ne pas être à l'aise. Eh bien, n'hésitons pas à aller voir quelqu'un qui sait et qui peut nous dire, bah, viens, je vais te montrer. Ou je vais, bah, viens, on va le faire ensemble. Et puis la prochaine fois, tu le feras tout seul. C'est ça les banquiers. C'est ça la capitalisation d'une mine. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces concitoyens opposants qui, eux, farouchement, toute leur vie, j'ai envie de dire, ont rejeté Jésus depuis des années jusqu'au bout, qui ont persévéré dans leur opposition. Eh bien, chers amis, j'espère que dans cette salle, personne ne fait partie de cette catégorie de personnes tellement je ne souhaiterais pas que vous viviez ce que cette parabole annonce, à savoir que ceux qui seront opposés toute leur vie, jusqu'au dernier jour de leur souffle, jusqu'à leur dernier souffle à Jésus, qui se sont opposés à lui pour lui faire la guerre, eh bien, ils seront mis de côté par le maître lui-même, par le roi lui-même. Et je peux vous garantir, connaissant un petit peu quelques passages de la parole de Dieu, qu'il ne le fera pas avec gaieté de cœur, puisque le Seigneur Jésus, investi de son autorité royale, il a quand même payé très cher pour que les hommes puissent parvenir à ce pardon et à ces récompenses dont nous avons parlé. Donc il ne le fera pas de gaieté de cœur, puisqu'il veut que chaque homme vive avec lui, mais il le fera. Et je relis ce verset 27 qui est grave et lourd de sens et de conséquences. « Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. » C'est extrêmement lourd, extrêmement grave. Donc si vous faites partie de ceux qui rejetaient Jésus, j'ai envie de vous dire par pitié, ne laissez pas passer ce temps de patience où le maître est parti, où il est absent, parce qu'il reviendra avec une colère éternelle. Alors les disciples de Jésus, j'arrive à la conclusion, croyaient que le royaume de Dieu allait se manifester sous leurs yeux tout de suite. Et Jésus a utilisé une parabole pour leur montrer que ce ne serait pas le cas. Il ne viendra pas tout de suite, il y aura un temps de patience. Et donc il leur livre cette parabole qui nous concerne encore aujourd'hui. Et pendant ce temps d'attente, valable pour nous tous qui sommes serviteurs de Jésus, ou si nous sommes ses concitoyens opposants à Jésus, Jésus nous demande en tant que serviteurs d'exploiter au quotidien la mine qu'il nous a confiée. Et ce passage nous montre que nous serons appréciés sur ce que nous aurons fait des principes de base de la vie chrétienne, la parole de Dieu, la prière, la louange, le témoignage, et que nous serons traités en conséquence. Que faisons-nous, chers amis, de notre mine? Tous, qu'est-ce que nous en faisons? Si nous ne sommes pas à l'aise, surtout, ne mettons pas notre mouchoir sur notre mine, mais sollicitons de l'aide autour de nous pour nous aider à la faire fructifier, et pour que celle-ci, je le répète, fructifie d'elle-même. Plus nous réussirons, plus le Seigneur nous confiera d'autres mines et nous récompensera en temps voulu, au temps voulu. N'oublions pas également que notre mine vient de Jésus et que celle-ci multiplie toute seule pour peu que nous le voulions bien. Et je vais terminer par un verset et juste une phrase. C'est Philippiens 2, versets 12 et 13 qui redit exactement la même chose. Philippiens 2, 12 et 13. Ainsi mes bien-aimés, donc là c'est à nous tous, serviteurs de Jésus. Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc là, c'est comme si on avait reçu un mail de la part de notre maître, notre noble maître, qui est absent, et qui finalement nous envoie un rappel en nous disant « Travaillez mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais là, mais encore plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Cette phrase révèle tout à fait le principe de la mine. C'est Dieu qui nous donne la mine, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Le vouloir de faire fructifier la mine, donc c'est-à-dire prendre la décision qu'elle fructifie, donc pas faire en sorte que de travailler à ce que la mine ne travaille pas. Le vouloir et le faire, c'est bien Dieu qui fait grandir et croître et multiplier la mine. C'est pas nous. Donc on sera jugé sur la grandeur de l'impact de la parole de Dieu que nous montrerons. Et enfin, si vous êtes en guerre contre Jésus aujourd'hui, faites la paix, sans tarder. Car lui souhaite que tous les hommes vivent tous les jours à ses côtés, non pas pour les dominer, mais pour que nous régnions avec lui. Voilà, merci.